Aujourd'hui, c'est le dimanche 8 octobre et nous sommes à Fournols, dans les monts du Livradois, pour assister à la première fête médiévale organisée par l'association Dissolution.
Et si on allait écouter Jacqueline ?
On avait également, avant l'arrivée des catholiques, une ville importante déjà, druidique également, qui était Tugnac. Tugnac, c'est Saint-Germain-l'Herme, qui a été débaptisé à l'époque catholique. Voilà. Donc, ce qu'on peut se demander également, c'est où on en est arrivé au nom de Fournols. Alors, Fournols, c'est également issu des druides. Ça s'est appelé, avec la modification patoisante, en 1287, Fornox. Et très rapidement, en 1510, Fournols, c'est devenu Fournols. Alors, pourquoi le U ? Vraisemblablement parce qu'il y a deux versions qui sont données. La première viendrait du mot neiger, qui en patois s'appelle Fournelé. Et puis, peut-être aussi du mot four, puisque, comme on le verra dans notre balade, là, il y avait le four banal, bien sûr, mais il y avait surtout un travail important autour du charbon de bois. Et il y a un village qui a complètement gardé le nom de cette activité qui s'appelle le charbonnier.
Eh bien, Aurélien, je suis président de l'association Dissolution. C'est nos premières médiévales ce week-end et... Ben, c'est trop bien. On est un peu dans le rush, là, mais c'est cool. On vient juste terminer un peu le repas du midi. Et en fait, ça a été que du retour positif, là, depuis le début. C'était vraiment les gens très heureux. Alors nous, c'est nos premières médiévales. On découvre un peu ça et on n'a pas du tout... En fait, on ne connaît pas trop les médiévales. Mais ce qui est génial, c'est que les retours des gens qui ont l'habitude de médiévales nous disent que c'était super, que c'était vraiment vivant, convivial, familial et... Et ben voilà, là je suis un peu dans le truc, donc dans l'effervescence, et c'est vraiment sympa.
Et c'est quoi qui vous a donné envie à l'association Dissolution d'organiser un événement sur ce thème-là ?
On dirait un coup de tête d'un bénévole qui avait envie de faire une fête médiévale à Fournols. Et en fait, quand on a vu un petit peu ce que ça représentait de faire une fête médiévale, on s'est dit « oulala, mais en fait, on n'a pas du tout le budget, la capacité de pouvoir faire ça ». Et donc on a fait nos médiévales à notre sauce, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des conférences, des causeries, ramener des choses avec, on va dire, un contact beaucoup plus humain, plus avec des artisans qui nous proposent des... Enfin, voilà. Plutôt ce partage d'expériences, cette rencontre humaine et cette convivialité. Et en fait, c'est ce qu'on sait faire et apparemment, ça prend bien. Notre dynamique, elle est assez simple, en fait. C'est déjà de remettre l'art au cœur de la place, quoi. C'est que... les artisans ont leur savoir-faire, ont leur connaissance et c'est une richesse qui est pour nous inestimable. Et l'idée, c'est de mettre vraiment ça au cœur de nos marchés, de nos événements, pour qu'il y ait vraiment ce partage, cette transmission, que les gens voient ce qui se passe derrière le produit fini. Pour qu'il y ait vraiment cette rencontre et qu'on ne soit pas juste à acheter quelque chose. On ne sait pas trop d'où ça vient, il y a toute une histoire qui est derrière. Et notre idée est vraiment de mettre ça en valeur et puis après d'accompagner ça et d'entourer ça de spectacles, de concerts, de musique, de danse et puis d'animation et voilà.
Et de le faire à Fournols, c'est parce que du coup l'association elle est implantée à Fournols, vous êtes tous habitants de Fournols ou des environs ?
Oui, au niveau de l'association, moi je suis à Fournols. Et puis nous, on va dire le noyau dur est de Fournols et après on a de la chance, on a pas mal de bénévoles qui viennent de partout, qui viennent même d'assez loin, on dépasse Clermont-Ferrand et donc c'est super. Je pense que c'est vraiment nos thématiques et la manière de créer nos événements qui attirent et à chaque fois on est surpris de voir... des gens débarquaient d'un peu plus loin nous disant tiens je veux bien vous aider, j'aime bien ce que vous faites et du coup c'est vraiment cool. D'ailleurs s'il y en a qui veulent pour des événements nous accompagner, c'est avec plaisir.
Merci Aurélien.
Et maintenant on écoute Sofiane qui va nous présenter son stand.
J'taille des... Je viens de fendre des morceaux, des petites planches d'épicéa. Et là, je taille les côtés pour les rendre un petit peu plus plates. Et après, je vais les planer pour pouvoir les mettre... pour avoir un produit fini, c'est des tuiles de bois, au final, qu'on va mettre sur un toit.
Et ça craint pas de mettre du bois sur un toit ?
Non, parce que là, c'est du bois fendu. Et du coup, l'eau, elle va juste ruisseler sur les nervures du bois. Et elle aura pas du tout envie ni la capacité de pénétrer dans le bois. Donc ça dure... quand c'est fait en châtaignier, ça peut durer plus de 300 ans. Il y a des bâtiments historiques qui ont encore des toitures en bardeaux de châtaignier. Là, c'est de l'épicéa parce que c'est un bois que j'ai trouvé ici en localement et que ça se faisait comme ça aux périodes moyenâgeuses.
Et c'est quoi les outils que tu utilises pour faire ça ?
Là, pour fendre le bois en deux, c'est un départoir. C'est pour c'est une hache à l'envers qui sert à couper à fendre en deux, donc un départoir. Et après, une petite hache. L'idéal, ce serait un coutre. C'est une hache un peu décalée, un peu tordue. Pour avoir un meilleur coup de coude, mais j'ai pas de coutre, donc ça c'est pour enlever les côtés du bardeau, et après une plane pour aplanir le bardeau.
Donc il y a trois étapes.
Ouais, trois étapes, là plutôt fendre, en fait là c'est toute la partie, on va dire, fendre et préparer la planche, et là-bas c'est l'affiner et l'aplanir, sauf sur la partie qui va être exposée à la pluie, et j'aplanis les parties qui vont être superposées pour qu'elles se superpose bien plat contre plat.
Et après, c'est juste clouté sur le toit ?
Il y a deux techniques. Moi, j'utilise... on peut la clouter chacune, comme des ardoises, mais on peut les agrafer ou les clouter sur des litos. Et moi, la technique que je vais utiliser pour ça, c'est cheviller. Donc, il y a un trou en haut du bardeau, une petite cheville en bois, et juste, elle sera déposée sur un lito qui sera en oistier ou un lito, quoi, quelle que soit son essence. Attends, je vais te montrer.
Ah ouais,
juste
okay.
Déposer.
D'accord.
Et on les pose les uns sur les autres.
Excellent. Ah oui, donc ça demande quand même un petit travail.
Ouais, bah percer. Ouais. Bon, faut se refendre des petites allumettes comme ça, mais ça va, des petites chevilles, mais ça va très vite. Et après, faut percer. Bon, là, j'ai triché, j'ai fait ça à la visseuse, mais on pourrait percer à la main chaque planche.
Ouais. Okay.
Après, c'est 10 000 planches pour 100 mètres carrés, donc ça fait un peu de taf pour...
Dans le dos. Pas très loyal, là.
Les gens étaient réunis sur le parvis, elle s'est décrochée, elle a passé à travers les abassons et elle est tombée sur les gens. Il y a eu 8 morts et je ne sais pas combien de blessés, et cette cloche s'est fendue. Donc à partir de ce moment-là, on a pris la cloche, on l'a amenée chez un fondeur à Saint-Germain-l'Herme, parce qu'à l'époque, il y avait de l'artisanat, et 3 cloches sont sorties de cette immense cloche. Et il y en a une qui est restée à Saint-Germain-l'Herme, une qui est remontée ici, et une autre qui est partie à l'église de Saint-Éloi-la-Glacière. Mais il n'y avait pas que cette cloche. Alors cette fameuse Marie-Louise, la légende dit qu'on l'entendait sonner jusqu'à Issoire. Bon, je pense que c'était un peu exagéré.
Je m'appelle Renaud Angerville-Langlois, donc j'habite dans l'Allier, à la limite de l'Allier et du Puy-de-Dôme, dans un petit village qui s'appelle Chouvigny, à côté de Gannat. Donc par où commencer ? Moi je ne suis pas du tout dans le vitrail à la base, donc je présente une activité d'artisan vitrailliste, qui est l'objet d'une reconversion professionnelle. J'ai fait 20 ans de comptabilité, et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de vraiment rentrer dans la création, de créer quelque chose. Et par hasard, j'ai fait la rencontre d'un artisan vitrailliste à Lyon, chez qui c'était vraiment un déclic, quoi, vraiment une découverte. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment d'essayer d'en faire quelque chose, et pourquoi pas une réorientation professionnelle. Donc du coup, j'ai suivi un peu cette voie-là. J'ai fait une formation en région parisienne pendant 6 mois pour préparer le CAP que j'ai passé l'année dernière, enfin cette année plutôt. Et là, depuis cet été, mon objectif, c'est de présenter ce que je peux faire comme travail, des expositions, des foires, des salons. Ma démarche, si je peux dire vraiment si c'est une démarche ou pas, c'est de travailler sur les lignes, quelles qu'elles soient, les lignes, les arrondis, les obliques, les lignes droites. Je ne suis pas dans le figuratif du tout, je suis dans l'abstrait, parce que pour moi, ça laisse la personne voyager, vraiment s'approprier son interprétation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un échantillon qui n'est pas vraiment exhaustif.
Et au niveau des outils, parce que du coup, tu as un peu amené les outils avec lesquels tu travailles.
Oui, bon là, on n'est pas trop dans du... on reste sur des outils très contemporains, même si je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup changé dans la philosophie. Le vitrail, ça reste découper du verre avec un diamant.
Ah ouais.
Quelque chose qui est plus solide que le verre. Donc là, c'est du tungstène. À l'époque, ils utilisaient soit un diamant, soit du zinc. Mais quelque chose qui raye le verre et qui le casse. Voilà, c'est ça le principe. Ensuite, une fois qu'on a ces pièces de verre, pour pouvoir les assembler, on les assemble avec des baguettes en plomb. Voilà, donc du coup, moi, j'utilise mon petit couteau pour couper le plomb. À savoir que le plomb, bah, reste la technique... La plus utilisée pour des gros projets, puisqu'en fait c'est solide, quoi. C'est solide, c'est malléable et ça résiste aux intempéries. Donc voilà.
Ta baguette de plomb, elle est un peu creusée pour accueillir l'épaisseur.
Exactement.
Du verre.
C'est des profilés en hache.
D'accord.
Ce qui fait que les pièces, on les imbrique les unes dans les autres.
D'accord.
Ça les tient. Ça fait vraiment un maillage. Ce qui est vraiment important dans le vitrail, c'est de créer un tissage, un maillage, comme une toile d'araignée. Et qu'après, à chaque intersection, parce qu'on va faire rentrer les plombs les uns dans les autres, et à chaque intersection, on va utiliser de l'étain qu'on va fondre, et ce qui fait la solidité. Je vais te montrer là, les plombs, on a beau les rentrer les uns dans les autres. Là, si je lève le truc, ça se casse toute la figure. Donc là, il faut vraiment solidifier chaque partie, chaque intersection.
Et alors, est-ce qu'au Moyen-Âge, ils avaient déjà des profilés en hache comme ça ?
Eh bien non, je pense pas. Comment il était le plomb à l'époque ? Très très bonne question. J'avoue, je vais pas étaler ma science, je n'ai pas la réponse. Sachant que le plomb, je ne sais pas comment il était utilisé. Peut-être qu'il était fondu. Mais la technique, je pense qu'elle n'a pas forcément tant évolué que ça dans le temps.
Merci Renaud d'avoir pris le temps de nous expliquer ta technique.
Fête historique, costumez-vous. Dame Geneviève a le gai plaisir de vous accueillir pour vous présenter sa fabuleuse collection de costumes. Qualité exceptionnelle pour toutes les bourses, hommes, femmes, enfants. Tout personnage du paysan à la noblesse à partir de 1 an.
Alors, comment est-ce que vous vous appelez, monsieur ?
Barry Alfred.
Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Des paniers en osier.
Et qu'est-ce qu'ils ont de spécifique alors, ces paniers ?
Eh ben, c'est déjà des vieux paniers. Enfin, c'est des paniers qu'on fait toujours le même modèle, toujours à l'ancienne. Il y en a qui les ont modernes, mais nous, on a toujours resté comme ça.
C'est quelque chose qu'on vous a appris dans votre famille ou
On a toujours fait ça. Les anciens, nous, après de génération en génération.
Vous avez vu les anciens faire et vous avez appris avec eux ?
Oui, avec les anciens. Exactement.
Donc l'osier, vous le trouvez où ?
Ben, l'osier, on la jette. Maintenant, on ne trouve plus, comme qu'ils taillent plus les... Alors maintenant, on est obligé de l'acheter.
Avant, c'était de la taille régulière et des repousses.
Les anciens, ils taillaient les haies, puis il y en avait toujours. Et puis maintenant, comme qu'ils arrachent tout, alors. Ça fait qu'on a du mal à pour y retrouver.
Et là, vous avez différentes couleurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait?
Parce que ça, c'est de l'osier verte, là. Et la marron, c'est de l'osier sec, mais trempé dans l'eau.
D'accord.
Voilà.
Et là, il y en a au milieu, je vois que vous avez fendu.
Ouais, c'est fendu. Une osier, on la fend en trois.
Ah, okay.
C'est pour ça qu'elle est blanche.
Et ça, c'est purement décoratif ou ça a un autre intérêt?
On a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Parce qu'après, ça prendrait trop d'osier.
D'accord, c'est plutôt économique.
Voilà, c'est ça.
Et ça reste assez solide?
Ah bon, oui, oula. Pour rester solide, ça reste solide, il n'y a pas de problème.
Vous vous en servez pour quoi après, les paniers?
Les champignons dans les jardins, ramasser les cerises. Et, enfin, c'est polyvalent pour faire les courses. On peut tout faire avec.
Ils sont très beaux, en tout cas.
Eh bien, merci.
Wow. C'est vrai qu'il y a une certaine régularité, quoi. Ils sont magnifiques. Vous avez besoin de combien de temps pour en faire un en entier?
Oh, une demi-heure.
Une demi-heure?
Oui, mais là, je vois pas vite parce que il y a du monde qui passe.
Mais vous êtes hyper productif.
Oui, mais on fait pas ça sur l'année. On fait ça juste comme ça. Parce que maintenant, ça marche pas comme ça marchait avant.
Mais vous en vendez sur les marchés?
Non, je fais pas les marchés, moi. Donc quelqu'un qui m'appelle pour faire ça comme ça, bénévole après.
D'accord.
C'est juste pour le plaisir, c'est tout.
Et vous enseignez pas à vannerie?
Oh là.
Pourquoi pas?
C'est long à apprendre, la vannerie, on n'apprend pas comme ça.
Bah oui, mais bon.
Oui, mais il faut avoir le temps. On n'a pas une sac à faire.
Et c'est vos filles?
Non, c'est mes petites filles.
Vos petites filles. Et alors vous savez faire de la vannerie?
Non.
Non? Vous n'avez pas envie d'apprendre avec votre grand-père?
Un peu. Ça a l'air dur. Hein.
Ça a l'air dur?
Ah oui.
Comment vous faites la transition là entre le fond et le tour?
On pique de l'osier dedans là. C'est fait pour piquer l'osier ça.
D'accord.
On les pique.
D'accord.
Et on monte le panier. On en repique encore derrière. Et puis on monte le panier comme ça.
Ça a l'air très technique.
Ah oui.
C'est hyper beau.
Merci.
Vous avez de la chance de pouvoir le regarder faire ça, là, quand même. Et vous, madame, vous en faites pas?
Non.
Non? C'est plutôt les hommes qui font ça?
Non, pas forcément. Il y a les femmes aussi qui peuvent en faire. Non, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est que moi je suis pas quelqu'un de patient à la base. Donc il faut beaucoup de patience là.
D'accord.
Et je suis pas quelqu'un, non, je suis pas patiente du tout. Puis là il faut de la patience.
D'accord.
Donc non. Mais les regarder faire, ça me plaît.
C'est vrai que regarder faire, c'est aussi hyper beau. Les gestes sont précis.
C'est sûr, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Vous avez toujours vu des gens faire ça?
Mais tout le temps, oui, oui, tout le temps. Chez nous, c'est comme ça.
Allez, on tombe. Bien, voyons.
Qu'est-ce que tu fais ici, Laurence?
La vaisselle. J'ai découpé du tissu, j'ai couru partout, j'ai fait beaucoup de kilomètres.